wanna be my lover, you gotta get with my friends.
I'm representing for the gangsters all across the world. Still.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. On rembobine nos cassettes, on vous raconte l'histoire inédite des albums qui ont marqué les 90s. Dans cet épisode, on va vous parler de Tom Rowlands et Ed Simmons, alias les Chemical Brothers. Au milieu des 90s, alors que la Britpop devient la bande-son de toute l'Angleterre, les Chemical se lancent à l'assaut des charts avec pour seul et unique but de réconcilier le rock et l'électro. Il faut dire que leur style doit autant à l'acid house et au big beat qu'au rock psychédélique des 60s. En 1999, les Chemical Brothers sont au sommet de leur popularité et sortent un troisième opus complètement fou, Surrender, imaginé comme un véritable concept album plutôt qu'une enfilade de singles à destination des dance floors. Popularisé par les singles Out of Control, Let Forever Be et le hit plaqué or Hey Boy, Hey Girl, l'album recèle de mille trouvailles à l'instar du titre Asleep From Day qui deviendra la bande-son de la marque Air France. L'album est un carton d'un point de vue critique et commercial, mais c'est sur scène que le duo se défend encore le mieux car personne n'avait fait des shows aussi bons, visuellement parlant, et leur live à Glastonbury l'année suivante rassemblera jusqu'à 250 000 personnes. Surrender, on en parle tout de suite maintenant avec le Cassette Crew, Fanny.
Hello.
Grégoire.
Salut tout le monde.
Et Olivia.
Coucou.
Bon alors Olivia, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire médiévale et de capsules temporelles.
Ouh là là, ouais. Ça a l'air fou.
Fou.
Grégoire, où est-ce que tu vas nous emmener ?
Alors moi je vous emmène au Orinico Studios, là où Oasis a enregistré une partie de son Morning Glory et les Chemical Brothers, leur fameux Surrender.
Tiens, tiens, comme par hasard. Alors Fanny, tu vas nous raconter tout sur la pochette ?
Et je vais surtout vous parler d'un mec qui se fait appeler Jésus et de Story World Impossible.
Oh, oh. Tout ça est très très mystérieux. Alors les Boys and Girls, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. Here we go!
And now it's always good.
Alors voilà pour les 11 titres du Surrender. Et ben disons, c'était la folie là pendant cette écoute. Ici, on a mis les stroboscopes.
Grosse ambiance.
Grosse ambiance.
Surtout de ton côté, Manu. En fait. Le gars était fou.
C'est donc le troisième album des Chemical. Il sort le 21 juin 1999 en vinyle, en cassette, en CD et en mini-disc sur le label Astralwerk chez EMI. Alors, pour bien se remettre dans le contexte, en 99, souvenez-vous, tout change. La France passe à l'euro, on découvre les MP3 qu'on télécharge sur Napster et on se prépare au méga bug de l'an 2000.
Paco Rabanne, bisous.
Si tu me regardes. Au cinéma, on va voir Coup de foudre à Notting Hill, on va voir Matrix et American Pie. C'est aussi l'année de Wipeout 3 que personnellement j'ai saigné sur PlayStation.
Ah là là, très très bon jeu de course futuriste, je vous le conseille.
C'est vrai. Et c'est aussi l'année de Pokémon qui débarque sur le petit écran. En tout cas en France. Voilà, au rayon techno, à la FNAC, on retrouve 1999 de Cassius, Remedy de Basement Jax, Windowlicker d'Aphex Twin, et bien sûr, You've Come a Long Way, Baby de Fatboy Slim, qu'on a d'ailleurs déjà chroniqué ici, souvenez-vous.
Avec succès.
Allez, on va commencer par se faire un petit tour de table et rembobiner vos souvenirs. On va commencer par toi, Olivia. Les Chemical Brothers, ça t'évoque quoi?
Alors, écoute, pas grand-chose. J'en suis bien navrée. Cela étant, petite histoire familiale de la famille des Olivia, si vous le souhaitez.
Mais avec grand plaisir.
Écoutez,
on aime beaucoup les histoires familiales.
J'ouvre la valise à trésor et les histoires familiales.
Tout commence en Suisse quand j'étais petite.
Alors, non, pour la petite histoire, la chanson qui m'évoque le plus de choses sur cet album, c'est celle qui est utilisée pour la bande-son d'Air France.
Ouais.
Pour quelle raison? Parce que ma maman a longtemps travaillé chez Air France et en fait, elle a eu une longue carrière d'hôtesse de l'air avant ma naissance, puis elle s'est arrêtée, puis elle a repris à peu près au moment de la sortie de cet album. Voilà.
C'est excellent. Et tu dis que ma maman a été hôtesse au sol de Air France.
Mais c'est incroyable. Peut-être qu'elles se sont rencontrées, Manu Minel.
On va échanger les numéros.
Dans cet univers. Bien sûr. Peut-être qu'elles ont parlé de radiocassettes, elles se sont dit nos enfants, dans 30 ans, se lanceront dans une grande carrière podcastique.
Mais ceci dit, c'était un choix génial, hein, effectivement, hein, cette BO d'Air France, enfin c'est...
Ouais, voilà. On en reparlera, mais c'est vrai que c'est très...
T'as envie d'aller dans les airs, quoi, clairement.
C'est clair.
Le choix était génial.
Carrément, Greg, qu'est-ce que alors, ça t'évoque, toi, les Chemical?
Alors, les Chemical, c'est pas forcément un souvenir lié à Surrender, mais c'est plutôt lié au clip de Michel Gondry de Star Guitar, qui est un album, je pense que Manu, toi qui connais...
C'est l'album juste après.
C'est l'album voilà, juste après. Et je me souviens, avec mon frère, on avait un DVD avec un peu une sélection de clips...
Oui.
Work of Michel Gondry.
Exactement.
Ils avaient fait la même pour Anton Corbin, pour plein de gars. Ouais,
exactement. Ouais. Et donc là, c'était ce clip de Michel Gondry des Chemical qui est absolument extraordinaire, où en fait, t'as juste une caméra fixe sur un train et les éléments du paysage, si tu veux, forment une sorte de partition de la musique. Donc les piliers vont être les basses. Après, voilà, le paysage défile et ça construit en fait le paysage sonore. Et franchement, ce clip est absolument extraordinaire. Je vous conseille de le voir si vous le connaissez pas. Et c'est un souvenir très très fort parce que ce clip m'a fait mais complètement vriller.
Ah,
et
ouais.
Je l'ai regardé mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Donc les Chemical, ça me rappelle beaucoup ça.
Bah tu verras qu'on va reparler des Chemical et de Michel à la fin de cet épisode.
On l'appelle Michel, ouais.
Spoil. Écoute, étrangement, moi qui ai passé mon adolescence le nez collé devant MCM et MTV à regarder tous les clips possibles.
Les clips. Ah ouais, toi tu fais carrément des mélodies.
Il faut le dire comme ça. Tous les clips. je n'ai aucun souvenir de fucking clip de Chemical Brothers, quoi.
Ils étaient chambés, hein, pourtant, l'équipe.
Et donc étrangement, je n'ai aucun souvenir des Chemical Brothers.
Pour moi, les Chemical, c'est vraiment lié au côté visuel, justement.
Ouais. Et ben, je suis passée à côté.
Ouais,
et je ne comprends pas. Et c'est, voilà.
Alors c'est marrant, on a trois personnes autour de la table qui effectivement connaissent pas très bien les Chemical.
Salut, on va arrêter. Par contre, comme Olivia, merci Air France cette magnifique chanson avec Hope Sandoval.
C'est vrai. Et toi, mon cher Manu Minel?
Moi, plein de souvenirs. Alors je vais essayer de les sélectionner. D'abord, il y avait ce poster de Surrender. J'avais découvert Surrender sur une bande d'écoute à la FNAC, véridique, à la FNAC de Toulouse en vacances. Et
La grosse claque.
Ah ouais, non, mais en vrai, super album de ouf, j'avais halluciné.
C'était ça ou Nougaro, donc il est parti avec les Chemical.
Et lors d'un voyage scolaire, en fait, j'ai acheté un poster de Chemical Brothers, de l'album, de la pochette de l'album Surrender que j'ai eu pendant genre 10 ans dans ma chambre au-dessus de mon lit. C'est et classe. J'adore cette pochette. Donc j'ai vraiment envie que tu nous racontes ce qu'on voit dessus. Parce que j'ai
fait
des
pochettes. Dommage parce que je comptais rien te raconter dessus. Mais...
et puis des souvenirs de live incroyables. Moi j'ai eu la chance de les voir deux fois. Ah une fois au Zénith de la Villette à Paris et une fois en plein air lors d'un festival rock en scène. C'était des messes incroyables avec un show visuel, des lasers, mais c'était l'hystérie. Moi, j'ai pas connu les raves, les free parties. Par contre, il y avait cette ambiance complètement folle au concert des Chemical Brothers. Et ça, c'est resté à vie, quoi. Voilà.
Waouh!
Ouh,
petit disclaimer pour nos auditeurs. Donc, Radio Cassette a désormais 3 ans et ça fait environ 3 ans qu'Emmanuel réclame cet album.
Ouais.
Donc, cette émission, du coup, c'est son émission.
C'est son émission.
C'est
son moment. C'est son moment.
C'est son moment.
Allez, go!
Yes, et bah écoutez, c'est le moment de revenir un petit peu sur l'histoire de ce succès et de revenir sur l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui des Chemical, celle d'une bromance en fait entre deux gros fans de musique. J'ai nommé Ed Simmons et Tom Rowlands. Est-ce que tu pourrais nous les présenter, Olivia ?
Avec grand plaisir. Donc, le petit Ed Simmons naît à Herne Hill, au sud de Londres, en juin 70. Sa mère est avocate et son père est absent.
T'es sûr que c'est un métier, ça?
Pour beaucoup de pères, ça l'a été, oui. À cette époque, le petit Ed aime deux choses dans la vie, les avions et les comédies musicales. Heureusement, ses goûts musicaux vont un peu évoluer. Dès l'âge de 14 ans, il se met à fréquenter les boîtes de nuit et avoue être fan de deux groupes de Manchester, New Order et The Smiths.
Bah, ça nous fait un point commun.
C'est d'ailleurs pour cette raison, tiens-toi bien, qu'il choisit Manchester pour étudier l'histoire médiévale. Hmm. C'est quand même fou de caler ses études par rapport au groupe de musique que tu kiffes. Pas mal, quoi. T'aurais fini à Toulouse, toi, si t'étais...
Zebda. Bisous.
De son côté, Tom Rowlands, né en janvier 71 à Kingston-upon-Thames, à Londres. Lui, son truc, c'est Public Enemy, Kraftwerk et New Order. Lui aussi part étudier l'histoire médiévale à l'université de Manchester. Et c'est ainsi qu'il fait la connaissance d'Ed Simmons en 89.
Ces quelques années à Manchester, à nos débuts, ont façonné ma vie. Pour un étudiant, c'était la période rêvée pour vivre dans cette ville, participer à cette scène. Bizarrement, les étudiants ne fréquentaient pas l'Hacienda. Ils préféraient se retrouver dans les bars de l'université ou les pubs de rugbymen. À cette époque, l'acid house et même les raves ne touchaient encore qu'un public underground. En ville, on se reconnaissait entre ravers grâce à des attributs vestimentaires comme les chaussures Kick High de chez Kickers. On savait qu'on partageait ce secret, ce monde à part. On était souvent que tous les deux à venir de la fac avec Ed, alors qu'elle était à 10 minutes en bus de ce qui était alors le meilleur club du monde. Mais c'était une époque avant Internet, l'info ne circulait pas et l'underground restait le plus souvent un secret bien gardé.
On est donc à la fin des années 80. L'Angleterre découvre les premiers disques de house music en provenance de Chicago. Des fêtes sauvages sont organisées un peu partout. On danse jusqu'au petit matin sous l'effet de substances multiples et diverses, notamment l'ecstasy, bien entendu. 10 ans après le punk, cette nouvelle révolution vient chambouler à nouveau les codes de la société britannique. Ce Second Summer of Love, comme on l'appelle, le premier, donc je le rappelle, c'est l'été 67 à San Francisco avec les hippies, tout ça, tout ça. Donc ce Second Summer of Love dure 2 ans, 87 et 88. Et ça va d'ailleurs durablement marquer les années suivantes, le début des années 90. On s'en était un petit peu parlé durant l'épisode de Fight Buzz Slim. 2 années donc qui vont démocratiser la notion de clubbing, mélanger les différentes couches sociales et s'affirmer comme une réaction libératrice face à la crise économique et à l'autoritarisme de Thatcher. Au début, ce sont juste quelques centaines de personnes, mais le phénomène va rapidement se propager et lancer la mode des rêves. La bande-son de cette époque bénie, qu'on va également appeler Manchester, c'est ce titre « Alléluia » des Happy Mondays. Back.
si c'est ça qui passe en rêve, finalement, je vais peut-être y aller. Hein.
c'est chambé, non.
Là, cool, là, ce
qui est génial, c'est qu'on est vraiment un chaînon manquant, tu vois, entre le rancardé qui manque un peu de souffle à l'époque, et puis tout d'un coup, la house qui vient des États-Unis, et les deux ensemble, ça te donne un truc de ouf, quoi.
Ça, c'est...
jamais vu.
Je pense que c'est les acides, ça. Hein.
Je pense que ça joue un petit peu. On va en revenir maintenant à nos petits gars de Manchester et comment ils organisent ces soirées et montent un petit studio dans la chambre de Tom.
C'est l'époque où ils mixent régulièrement sous le pseudonyme de, je vais le dire en français, 237 Turbo Nutters, du nom du numéro de leur maison à Manchester. On les retrouve régulièrement derrière les platines d'un club appelé Naked Under Leather, nu sous le cuir en français. Ils passent essentiellement du hip-hop, de la techno et de la house. Mais après un certain temps, ils commencent à manquer de morceaux hip-hop instrumentaux et décident du coup de composer leur propre musique. Les choses s'enchaînent très vite. On commence à parler de leur soirée. Mais bon, c'est pas des foufous non plus, puisqu'ils attendent d'avoir leur diplôme d'histoire médiévale en poche pour se lancer vraiment. C'est vrai que quand même, c'est un sacré filet de sécurité, l'histoire médiévale.
Au cas où la musique marche pas, tu
sais, jamais.
T'as quand même ton petit diplôme d'histoire médiévale pour trouver du taf. C'est important.
Bah, les parents étaient contents, je pense.
Ouais. Les gars, c'est les jacouilles, la fripouille de la techno, en fait.
Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est des petits londoniens, en fait. Qui sont allés à Manchester faire des études parce que la musique était cool là-bas.
C'est ça, et ils ont trouvé le prétexte de l'histoire médiévale parce qu'ils aimaient bien ça, voilà, vite fait quoi. Bref,
j'ai fait de l'histoire médiévale.
Bref. Ils sortent donc leur premier maxi composé à l'aide d'un système hi-fi Hitachi, d'un clavier, d'un ordinateur et d'un échantillonneur. Ce maxi, c'est Song to the Siren, qui sort sous le nom des Dust Brothers en octobre 92. Alors, pour la petite histoire, et je trouve ça trop mignon, sur la pochette de ce premier titre, il y avait le numéro de téléphone de la mère d'Ed, au cas où quelqu'un chercherait à les contacter.
C'est trop choupi.
Ils autoproduisent donc 500 copies de Song to the Siren, qu'ils distribuent chez tous les bons disquaires de Londres et ses alentours. Ils en envoient aussi une copie au DJ londonien Andrew Weatherall, qui en fait un élément permanent dans ses sets.
Alors, le DJ, comme tu dis, Andrew Weatherall,
DJ,
c'est vraiment une figure, en fait, de cette scène qui explose, hein, la scène Acid House à l'époque. Le gars fait partie du label Constellation Records, qui va signer les Screamadelica de Primal Scream. C'est un mec qui est un DJ, c'est quelqu'un qui est super important, et c'est lui qui a remixé le morceau de Happy Mondays qu'on a écouté tout à l'heure. Bref, c'est quelqu'un, en fait, qui va réussir à donner un énorme coup de pouce à nos copains les Chemical.
Et c'est aussi lui qui va les présenter au label Junior Boys Own. C'est d'ailleurs comme ça que tout va démarrer, puisque Junior Boys Own adore et leur offre 3 semaines de studio pour enregistrer un album, alors qu'ils n'ont littéralement encore jamais mis les pieds de leur vie dans un vrai studio. Ça démarre très fort et le duo devient la coqueluche de la scène électro-anglaise. En octobre 94, les Dust Brothers deviennent les DJ ou DJ
pour les intimes,
pour les intimes du petit mais très influent Heavenly Sunday Social au Albany Pub de Great Portland Street à Londres. Un certain Noël Gallagher y passe d'ailleurs toutes ses soirées.
Comment ça, un frère Gallagher qui passe ses soirées dans les pubs?
Ça m'étonnerait.
C'est pas lui.
D'ailleurs, il les contacte pour leur demander de remixer l'une de ses chansons, puis il change d'avis. Bah, il est comme ça, Noël, hein. Un peu instable.
Pas très stable, oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est ce que je voulais dire.
Anecdote, en 95, alors que les Chemical Brothers assurent un DJ set pour Oasis à Sheffield, Angleterre, Liam Gallagher les a dégagés des platines et a demandé à un membre du groupe The Verve de prendre leur place. Il n'aimait tout simplement pas ce qui se passait ou alors peut-être un peu jaloux de son frère Noël, ça m'étonnerait pas, hein, c'est possible. Hein. En mars 95, ils entament leur première tournée internationale qui inclut les États-Unis où ils jouent avec Orbital et Underworld, puis une série de festivals européens. C'est également à cette époque que les Dust Brothers, un groupe américain d'électro, commencent à tiquer un peu quant à l'utilisation de leur nom. Tom et Ed se choisissent alors un nouveau nom, ce sera The Chemical Brothers, d'après leur morceau Chemical Beats, qui selon eux incarne leur nouveau son plus agressif, plus puissant.
Mais rien à voir avec l'ecstasy.
Non, bien sûr que non. Quelques semaines plus tard, le 15 avril 95, les tout nouveaux Chemical Brothers sortent leur premier album Exit Planet Dust, en référence à leur changement de nom. L'album entre directement en 9e position dans les charts britanniques. Leur succès international débute avec la sortie du single Life is Sweet avec Tim Burgess des Charlatans.
Il est chambé ce morceau, non ?
Non.
Ça va être long cet épisode. Hein.
Oh là là. Je dis rien. Bon. Je laisse Fanny parler à ma place.
Bon, on coupera ses interventions au montage. En tout cas.
Bien sûr.
Et c'est à cette époque en fait que les Chemical en fait vont inviter deux petits Frenchies en première partie d'une date à Londres. Devinez qui ?
Charlie et Lulu.
Non. Tu te trompes, Fanny.
Presque.
À chaque fois.
Presque. Oh.
Elle confond à chaque fois Daft Punk et Charlie et Lulu. Mais c'est très proche.
Bon, c'est les Daft. En gros, c'est encore des bébés à l'époque. Je rappelle qu'on est en 95. Ce qui est marrant, c'est que t'as une vidéo qui traîne où on les voit papoter dans le tourbus, justement. Et voilà. Enfin bref, pour revenir à cet
album. Ça, c'est ton kiff, ça, Manu. Tu vois les Daft Punk avec les Chemical Brothers. Là, mais je veux dire, t'es en train de te palucher, mais jusqu'au bout de la nuit.
C'est le double combo.
Pardon, excusez-moi.
C'est le double combo. Enfin bref, pour revenir à cet album, Exit Planet Dust, on peut dire que c'est vraiment un tournant pour la musique électronique, Olivia.
C'est clair. Exit Planet Dust va se vendre à plus d'un million d'exemplaires et devient le premier disque techno anglais qui perce aux États-Unis. C'est clairement grâce à ce succès que l'industrie du disque américaine s'est mise à remarquer la techno. Faut dire que depuis deux ans, 94-95, c'est pas trop la fête. Les ventes de disques sont au plus bas, on attend désespérément la nouvelle rockstar, le nouveau son qui va faire redécoller les ventes. La presse spécialisée cherche un nouveau souffle et le public commence à être un petit peu lassé des grandes figures très égocentrées que le rock a produit ces dernières années. La techno va soudain apparaître comme la solution. Globalement, à cette époque en tout cas, c'est un genre qui tourne son attention principalement vers la musique. Les personnalités des musiciens sont de fait un peu plus en retrait.
Les Chemical arrivent au bon moment, quoi.
Bah, les labels commencent à chercher des nouveaux sons, des nouveaux talents pour faire redémarrer la machine. Et le succès de Exit Planet Dust va durablement secouer l'industrie du disque. Pendant le festival de Glastonbury en 95, Ed et Tom recroisent le fameux Noel Gallagher qui leur dit combien il est fan de l'album. Il veut absolument chanter sur un futur morceau comme l'avait fait Tim Burgess sur Life is Sweet qu'on vient d'entendre. Quelques semaines plus tard, Ed et Tom envoient à Gallagher un enregistrement. Complètement emballés, ils bossent dessus toute la nuit et les rappellent le lendemain matin pour leur dire que ça y est, il est prêt à enregistrer. Setting Sun sort en octobre 96 et rentre directement à la première position des charts britanniques. On écoute tout de suite un extrait. You're the devil in me, I brought it from the car.
True Story sur cet album. En fait, Noël les invite à jouer en première partie de leur live gargantuesque de Nebworth, le fameux live qui a rassemblé des milliers de personnes.
Millions.
Sur un champ, des millions de personnes, t'as raison.
Millions ? Vous êtes sûr ?
Milliards.
Des milliards, oui, c'est bien ce que je pensais. C'est des milliards.
Ok,
oui,
vous direz aussi, fact-checker voilà. Chez vous. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en août 96.
Pour vous servir.
Ce qui est sûr, c'est que c'est en août 96. Et deux mois plus tard, va sortir Setting Sun. C'est donc le tout premier single numéro 1 des Chemical. Et Setting Sun est, pour l'anecdote, assez fortement influencé par Tomorrow Never Knows des Beatles, à tel point qu'ils ont reçu une petite lettre des avocats de Beatles. Virgin Records a dû embaucher un musicologue même pour prouver qu'il n'avait pas samplé.
Ils n'ont pas poursuivi.
Ouais. Finalement, il n'y a pas eu de dommage à intérêt. Finalement, ça n'a pas été samplé. Mais
dommage
en vrai.
Dommage à intérêt mets... comme vous y allez.
Tu mets les deux à côté, il y a quand même pas mal de similarités. Enfin,
ah bon
bref.
Le duo récidive en 97 avec son album Dig Your Own Hole et son single Block Rocking Beats, qui rentre directement au numéro 1 des charts au Royaume-Uni. Le magazine anglais NME, le morceau, je cite, vibre dans votre tête comme si vous veniez de faire une longueur sous l'eau dans une piscine remplie d'amyl.
C'est quoi l'amyl ?
C'est de la drogue, mon cher.
Ah, d'accord, désolé, je suis un peu naïf.
Oui, bien sûr.
Tu savais ce que c'était, Fanny ?
Non.
D'accord, merci.
Il leur a ensuite valu un Grammy Award de la meilleure performance instrumentale rock. Avec des sons techno, rock et big beat, ce nouvel album confirme leur maîtrise des sonorités électroniques. Les Chemical deviennent une référence pour les remixes. Leurs concerts font salle comble partout en Europe et aux États-Unis pendant les deux années qui vont suivre. Et puis, en mai 99, ils sortent ça. Et les garçons, Superstar DJ, c'est parti. Bon, je sais pas, au niveau des paroles, c'est quand même pas dingo,
oh bah
mais
c'est du niveau de Daft Punk. Hein.
En tout cas, ce premier extrait de l'album Surrender, qui sort quelques semaines plus tard, préfigure l'énorme carton de l'album, considéré comme un tournant musical dans la carrière du groupe. Il délaisse le big beat, ses mélodies sombres au rythme rapide et au son électronique foisonnant pour rejoindre un courant plus electronica et acid house. L'album est numéro 1 des charts britanniques et sera double disque de platine. La presse comprend que le phénomène est en train de devenir beaucoup plus puissant et touche désormais tous les publics. Le magazine Rolling Stone écrit que Surrender pourrait être le premier album de dance music qui parle de la fin de la dance music ou du moins de la fin de l'innocence. En tout cas, sachez que Surrender est certainement la musique qu'entendront les premiers aliens qui vont débarquer sur la Terre. Une copie de l'album a été placée dans la troisième capsule temporelle, Blue Peter, enterrée en janvier 2000. Pas mal.
C'est génial.
Attends, enterrée ?
Ouais.
Donc elle n'est pas en orbite ?
Non, elle est enterrée. Et c'est-à-dire que si les aliens débarquent, boum, ils la sortent et boum, ils écoutent tout de suite Surrender. Génial.
Mais elle est où ?
L'humanité, l'humanité va où, là, en fait ?
Mais on va où, là ? Non, mais les gars, vous n'avez rien compris. Vous passez à côté de quelque chose, quoi. Alors, c'est parti maintenant avec toi, Greg, pour le making-of de Surrender, disque culte de la fin des 90s. Et au sommet de ce qu'on appelle le big beat. Alors, c'est quoi le big beat concrètement, Greg ?
On en a déjà parlé, pardon, dans notre épisode sur Fatboy Slim. Le big beat, c'est ce sous-genre de l'électro qui va cartonner dans la deuxième moitié des années.
le mec est rebou naturellement.
Oh, c'est chaud là, d'un coup il a vrillé quoi.
Pardon, mais c'est impossible à dire.
Il a tout lâché là, putain.
Pardon.
Jean-Michel 8 grammes.
Okay.
Je reprends
mon sérieux, vas-y.
Oh putain.
Vas-y. Oui Manu, on en a déjà parlé dans notre épisode sur Fatboy Slim. Le big beat, c'est ce sous-genre de l'électro qui va cartonner dans la deuxième moitié des années 90 au Royaume-Uni, où comment des gamins abreuvés au rock british réinventent un électro festif et psyché. Dans leur premier essai Exit Planet Dust, la formule de base des Chemical reste la même, hein, des breakbeats maltraités, des batteries rock, hip-hop agrémentées de glitch, ces accidents sonore qui donne tout son cachet à cette techno euphorisante. Clairement, Surrender, c'est le coup de maître des Chemical Brothers. C'est ce disque qui porte cette formule à son meilleur en offrant une série de titres très accrocheurs et accessibles. Mais Surrender, c'est sans doute les Chemical eux-mêmes qui en parlent le mieux. On écoute un extrait d'une des rares interviews filmées du groupe qui détestait ça. Et là, c'est Tom Rollins qui parle.
Your Exit Planet Dust had this real raw kind of
Notre premier album avait une énergie funky, tandis que Dig Your Own Hole avait ce son puissant, avec des titres progressifs et psychédéliques. Et puis il y a Surrender. Surrender, c'était quelque chose d'autre. Ah, je ne sais pas. Il y avait plein de choses dedans. On voulait un album plus fluide, même s'il y a aussi des moments très intenses. Surrender était psyché et en même temps plus complexe et subtil. On voulait aussi faire un disque plus pop. Le genre d'album que l'on peut écouter encore et encore. C'est un album qui contenait finalement tout ce que l'on aimait à l'époque.
Alors Greg, pour enregistrer, les Chemical vont se rendre dans un studio bien connu à l'époque, à la fois de la scène électro, mais aussi de la scène rock.
Oui, direction South London, au Orinoco Studios. C'est là-bas que les frères chimiques ont enregistré leurs deux précédents albums, Exit Planet Dust et Dig Your Own Hole. Et effectivement, parmi les groupes fameux qui y ont mis les pieds, on retrouve notamment Oasis, qui a mixé et enregistré une partie de son Morning Glory, album culte de la Britpop abordé précédemment par un excellent podcast, je crois, du nom de Radio Cassette.
Je ne connais pas du tout.
Non.
Comment
et les frères Gallagher y retourneront pour enregistrer Be Here Now. Le studio connaîtra donc son heure de gloire à la fin des années 90, puisqu'il sera à l'origine de nombreux singles classés numéro 1 des charts britanniques, se hissant même au niveau d'Abbey Road pour l'année 1997. Donc voilà, joli succès pour ce studio.
Joli palmarès. Et pour cet enregistrement, la guest list à l'entrée des studios, elle aussi, est impressionnante.
Ouais, c'est un casting 5 étoiles que nous proposent les Chemical Brothers. Jugez plutôt. Bobby Gillespie de Primal Scream, Hop Sandoval de Maisie Star, Jonathan Donahue de Mercury Rev, Noel Gallagher d'Oasis sur le titre Forever Be, sorte de remake pop de Setting Sun, un titre qui apparaissait déjà sur leur premier album, on l'a vu avec Olivia. Mais la star parmi les stars de l'enregistrement de Surrender, c'est bien sûr Barney Sumner, guitariste de Joy Division et fondateur de New Order, qui chante et joue sur ce Out of Control.
Sometimes I feel that I'm misunderstood. The river's running deep right through my blood. Your naked body's lying on the ground. You always get me up when I'm down.
Putain, mais quel anthème techno, quoi, ce truc, c'est une énorme balle. Alors, New Order, Chemical Brothers, la boucle est bouclée pour ces deux gros fanboys que sont les Chemical.
Ouais, pour le groupe, il s'agit ici, évidemment, de rendre hommage à cette scène électro et new wave de Manchester, sans laquelle le big beat des années 90 n'aurait jamais pu voir le jour. Et puis, au-delà de ce beau symbole, Barney Sumner a eu beaucoup d'importance dans l'histoire du groupe, servant en quelque sorte de figure tutélaire aux Chemical. L'histoire de leur rencontre est assez drôle, et les deux compères l'ont raconté en 2018 au quotidien Irish Times. Ils expliquent qu'à l'époque où ils sont étudiants à Manchester, en histoire médiévale, ils sont des monomaniaques de New Order. Et encore aujourd'hui, hein, les Chemical peuvent passer des heures sur YouTube à la recherche d'une nouvelle interview rare du groupe ou d'un concert pirates qu'ils auraient manqué. Et donc le groupe habite à l'époque dans un sous-sol où se déroule pas mal d'after-parties. Et un soir où il ne se passe rien de particulier, quelqu'un sonne à la porte et c'est ce bon vieux Barney qui passait par là et se demandait s'il n'y avait pas une bonne soirée en cours. Ils lui ont proposé d'entrer, de regarder la fin d'un film qu'ils étaient en train de mater ensemble. Et lors de cette soirée est née une belle amitié et un compagnonnage entre les Chemical et la tête pensante de New Order.
Putain, c'est une belle histoire. Hein.
Le mec, il vient gratter l'amitié à ta porte.
Voilà, et c'est ça. Non, mais il se disait, tiens, il y a peut-être une bonne soirée. Puis en fait, ils étaient là. Non, bah, on est juste en train de mater un film pourri. Viens, tu veux pas mater boire une bière.
Tu à la télé, tu restes.
C'était exactement ça.
Tu viens mater la fin de Derrick.
C'était exactement ça.
J'adore cette histoire.
Alors, quand on parle de Big Beat, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il faut évidemment qu'on parle des samples de l'album, Greg.
En effet, le Big Beat, c'est pour beaucoup un art du sampling et dans lequel les Chemical Brothers sont passés maîtres dans cet album. Et sans vouloir faire offense à la culture musicale large et profonde de nos auditeurs, il y a beaucoup d'artistes samplés totalement inconnus au bataillon. Entre vieillerie, soul et batterie chopées sur d'obscurs disques de disco, ou encore cet album de musique New Age d'un musicien anglais que vous connaissez tous évidemment. Il s'agit de James Asher et cette Asian Workshop qui sert de thème principal à cet excellent Sunshine Underground. Ensuite, ils ont pris la voix du titre Patrol des Charlatans. Ralenti et dépitché, et ça donne cet effet méditation tibétaine. Enfin, pour faire monter la sauce, les Chemical ont convoqué cette batterie de l'artiste techno Thomas Crumb. Avant. Après.
Alors bien sûr, il y a des morceaux pas du tout connus, hein. Perso, je crois que personne ne l'avait autour de la table, mais il y en a aussi des super connus qui ont été samplés sur Underground.
Oui, et c'est notamment le cas de ce Asleep From Day, qui est un sample de Deep Blue Day de l'artiste Brian Eno, qu'on adore aussi, on écoute tout de suite. Thank you.
Tiens, c'est marrant parce que c'est deux morceaux que je connais par cœur et j'avais jamais fait le lien entre les deux, quoi.
Bah, moi non plus, en fait. Et puis j'avais aussi envie de mentionner ce sample de Bernard Fèvre, pionnier oublié de l'électro français dont la carrière a été relancée à l'aube des années 2000 par ses différents samples sur le titre God Glint de Surrender. Et puis ils ont aussi repris ce passage.
Alors, dernière étape cruciale, c'est le mix qui est si important pour un album de musique électro, un mix qui est confié à un homme passé maître dans ce domaine. Alors, c'est qui ?
Oui, il s'agit de Steve Dubb Jones qui a œuvré sur les deux précédents albums du groupe et a déjà bossé, je vous le donne en mille, avec New Order, The Prodigy ou encore Primal Scream.
Toute la clique, quoi.
Un génie du son qui, pour le mix de Surrender, va travailler sur une console analogique Neve VR60, d'où ce son chaud, enveloppant, loin du côté parfois artificiel du son techno. Et c'est sans doute ce qui fait tout le charme de Surrender. Les Chemical Brothers ont eu pour l'essentiel recours à des distorsions, des delays et toute une panoplie de dispositifs analogiques pour transformer le son, le rendant à la fois étrange et en même temps le plus naturel possible. Surrender, avec son côté pop, ses nombreux titres chantés et sa variété de styles, peut être considéré comme le chant du cygne du big beat. On est en effet assez loin des gros effets de manche et des breakbeats en veux-tu en voilà d'un Fatboy Slim. Et comme New Order en son temps, les Chemical ont préparé ici le lit de la musique de demain, de Gorillaz, en passant par Justice.
Bon, alors je suis maintenant super content parce qu'on va enfin parler maintenant de la cover de cet album. Je vous en parlais tout à l'heure, je l'ai eu dans ma chambre au-dessus de mon lit pendant une dizaine d'années. Je l'avais acheté à Londres lors d'un voyage scolaire. Et alors, je me suis toujours demandé comment elle avait été fabriquée. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on voit, Fanny ?
Écoute, Manu, je suis heureuse d'aider à enfin lever le voile sur ce grand mystère de ton adolescence. C'était plutôt une bonne surprise pour moi de découvrir l'univers créatif développé sur cet album des Chemical Brothers. En allant regarder de plus près les crédits, j'ai vu que la direction artistique est signée par les membres du groupe eux-mêmes, en collaboration avec Blue Source, un collectif d'artistes, de graphistes et de réalisateurs basé à Londres, qui a été actif dans les années 90 et 2000. Ils ont bossé pour d'autres groupes cool comme Placebo, Pulp, Garbage ou encore Cocteau Twins. Alors, les Chemical et Virgin ont donc embauché Blue Source et ils ont fait un pitch créatif avec leurs attentes et ils ont lancé un appel à projet auquel plein d'artistes ont participé. Et c'est une jeune artiste anglaise nommée Kate Gibb qui a remporté le concours en proposant un travail de collage de photographies obtenues grâce à la sérigraphie. J'en profite pour faire un petit aparté technique car je sais que nos auditeurs aiment qu'on leur apprenne 2-3 trucs. Je me suis dit que c'était l'occasion.
Mais alors, c'est quoi, Fanny ? C'est quoi la sérigraphie ?
Formidable imitation.
T'es sûre que tu veux le faire avec cet accent ? Ok. Donc, très rapidement, la sérigraphie, c'est un procédé d'impression qui utilise des pochoirs, enfin une variante un peu plus complexe de pochoir. On choisit une image source qu'on va transférer sur un cadre de sérigraphie en tissu. Ensuite, on place un support.
Attends, c'est trop compliqué. Non, c'est trop compliqué.
Concentre-toi. Concentre-toi, on va y arriver. Vas-y,
tu laisses sécher 2 heures. Tu reviens le lendemain.
On place un support à plat, ça peut être du papier, de la toile, du tissu ou autre. Tu poses le cadre de sérigraphie dessus, tu mets de l'encre sur l'écran, tu la racles et hop, comme par magie, quand tu enlèves le cadre, le motif a été imprimé sur le support.
T'as bon, bref, si vous n'avez rien compris, il y a des tutos sur internet.
C'est un putain de pochoir, ok ?
Tapez YouTube sérigraphie, voilà, on vous explique tout.
Ce qui est génial avec la sérigraphie, c'est qu'on peut superposer plusieurs écrans, faire des aplats de couleurs, des dégradés et travailler sur des motifs très détaillés comme des photos. D'ailleurs, historiquement, l'un des artistes qui a le plus popularisé cette technique, c'est évidemment Andy Warhol et ses portraits de célébrités aux couleurs pop comme Marilyn Monroe, Liz Taylor ou Elvis Presley. Je pense que vous avez tous en tête ce genre d'image.
Ça va, Greg, tu suis ?
Ouais, ça va, ça va. Cool. Ça, je suis ça.
Sur la pochette de Surrender, on voit donc une photo sérigraphiée avec des aplats bleus, marron, orange et beige. À l'origine, il s'agit d'un cliché du photographe Richard Young, titré Jesus Among the Fans, qui a été pris en 1976 lors du Great British Music Festival qui a eu lieu à l'Olympia de Londres. Au premier plan, donc, on distingue quelques personnes qui attendent Pépouze, et sur la droite, un mec debout avec les bras levés en l'air. Ce mec, qui se faisait à l'époque appeler Jésus, William Gellett, de son vrai nom, était une sorte de hippie connu à l'époque pour ses danses extatiques en concert.
Putain, c'est génial quoi. Moi j'ai toujours cru que c'était un collage le truc, que c'était différents éléments qui venaient... Non, en fait c'est une vraie photo.
C'était Jesus Among the Fans. Et outre cette photo, en haut à droite de la pochette, on a le nom de l'album et à gauche le logo du groupe qui est lui-même très reconnaissable avec cette typo tout en rondeur. C'est le studio de design graphique Negative Space qui a créé ce logo au début des 90s à partir d'une police de caractère qui s'appelle Show Roman pour les adeptes de graphisme.
Absolument. Eh ben, merci pour cette analyse très complète, Fanny. Et tu as choisi de nous parler de quel vidéoclip ? Quelque chose me dit que c'est peut-être celui réalisé par Michel Gondry.
Je ne dis rien pour l'instant. Donc, pour le niveau clip, il y en a trois qui ont été tournés pour la promo de Surrender. On a un clip pour Hey Boy, Hey Girl, un pour Out of Control et un pour Let Forever Be. Et c'est de ce dernier dont on va parler parce que c'est l'occasion de retrouver Michel Gondry.
Ouais.
Donc Gondry, on en a parlé dans l'épisode sur Daft Punk, on l'a mentionné chez Björk, c'est évidemment un réalisateur qu'on adore ici chez Radio Cassette. Et dans les années 90, il a pondu un nombre impressionnant de clips hallucinants. Grégoire en parlait tout à l'heure dans son souvenir de jeunesse. Le clip de Let Forever Be, il faut bien l'avouer, ne va pas déroger à la règle. À vrai dire, ce clip est tellement dingo qu'il est difficile de le résumer. Disons que toute sa prouesse tient dans des effets spéciaux et des effets de caméra qui s'enchaînent de manière tellement fluide que notre cerveau peine à capter ce qui se passe. Techniquement, c'est vraiment du génie. On a des effets de transition entre les décors, des personnages et des objets qui se dupliquent à l'infini ou bien qui, à l'inverse, vont se fusionner comme dans un kaléidoscope. Là où je dis que c'est du génie, c'est parce qu'au lieu de dupliquer les personnages par ordinateur avec un simple effet copier-coller, Gondry va recréer cet effet avec des comédiens qui le miment dans le réel. Je m'explique. Au tout début de la vidéo, par exemple, on voit une femme rousse qui éteint son réveil, qui sonne sur la table de nuit. Soudain, l'image se duplique. On a non plus un, mais 15 réveils posés sur la table et non plus une, mais 7 femmes rousses. Et ce sont en fait 7 comédiennes, toutes habillées pareil, qui se lancent dans une danse chorégraphiée comme Gondry les affectionne tant.
C'est vraiment un truc de malade, quoi.
Ouais.
C'est vraiment un truc de ouf. Alors, il y a une super vidéo, d'ailleurs, de Michel Gondry sur YouTube, dans laquelle on voit comment il a tourné certaines scènes en studio. C'est ma boule.
Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, malheureusement, ça sert à rien de diffuser un extrait, car Gondry, il parle anglais avec un accent français à couper au couteau. Dedans, il explique qu'il a puisé son inspiration dans les émissions télé anglaises des années 70, comme Benny Hill, où les séquences plateau étaient filmées en vidéo et les séquences extérieures avec une caméra 16mm avec un grain complètement différent mais qui match quand même. Alors il a choisi de mettre en œuvre la même chose et de faire des transitions invisibles entre les plans. Outre la prouesse technique, on peut souligner la fantaisie de la trame narrative. Donc j'ai lu un article génial de Warren Buckland paru dans la revue Volume. Le titre c'est « Les story worlds non naturels et impossibles de Michel Gondry ». Et dedans, ce Buckland, qui est prof d'études cinématographiques à l'université d'Oxford, explique comment Michel Gondry va mettre en place ce qu'il appelle des story worlds impossibles dans ses clips. C'est-à-dire des récits narratifs qui contiennent des événements physiquement impossibles, non réalistes, anti-mimétiques ou invraisemblables. Et donc c'est clair et net que le clip de Let Forever Be contrevient à toutes les lois de la physique et c'est justement ça qu'on adore chez lui.
Eh ben merci Fanny. Tu l'as très bien expliqué, ce clip c'était une prouesse en soi, bravo. La collaboration en fait elle va même se prolonger entre Gondry et les Chemical puisqu'en 99, toujours la même année, Air France veut faire du ciel le plus bel endroit de la Terre et confie à Michel Gondry la réalisation de ce film publicitaire qui dure une minute. C'est une invitation poétique au voyage qui est sublimée par le morceau A Sleep From Day des Chemical Brothers. C'est vraiment un clip qui est diffusé en forte rotation à la télé. Bref, l'ironie du truc, c'est que Let Forever Be, Lui, le clip dont tu as parlé n'a jamais reçu de MTV Awards ou quoi. Mais par contre, la pub Air France, elle a été produite par l'agence BETC, elle a raflé tous les prix de la profession cette année-là. Et pour la petite anecdote, c'est cette pub en particulier qui est complètement géniale et qui m'a donné envie de bosser chez BETC dans cette agence quelques années plus tard. Et devinez pour quelle marque ?
Air France.
Air France Musique, ouais.
Waouh, voilà.
Il n'y a pas de hasard, Manu.
Oh là là. Ça veut dire que tu es à deux poignées de main. Non, j'arrête.
C'est chimique.
Exactement. Allez, c'est le moment maintenant de faire le bilan de Surrender. Je vais vous demander votre avis. C'était comment de réécouter cet album ? On va commencer par toi, Fanny.
T'es sûr que t'as envie de commencer par moi,
Non, je vais demander à Olivia. Olivia, c'était comment, s'il te plaît ?
Écoute, d'abord, j'ai appris quelque chose de très intéressant à la réécoute de cet album. C'est que jusqu'alors, je pensais qu'il disait « Hey boy, hey girl, sometime DJ, here we go ». Mais pas du tout. Il dit « Superstar DJ ». Et je l'ai chanté pendant 20 ans en disant « Sometime DJ ». Et je trouvais ça beaucoup plus poétique, en fait, finalement, tu vois. Sinon, à la réécoute, je sais pas trop quoi te dire.
Laisse parler ton cœur. Écoute, je suis prêt à tout entendre ce soir. J'étais un peu préparé, je crois.
Non, je sais pas. Je suis pas très, comment dire.
T'es pas réceptive.
Pas très réceptive. Et toujours pas, finalement. Voilà.
Eh ben, c'est pas grave, c'est ton droit.
C'est mon droit. Est-ce que j'aurais toujours quand même mon bon point, monsieur
oui,
le professeur?
Oui, bah, je t'ai très bien travaillé. Merci, Oli. Toi, Greg, qu'est-ce que t'en as pensé?
Mais effectivement, mais je comprends ce que veut dire Olivia. C'est-à-dire que c'est tellement une musique datée, qui est tellement inscrite dans son époque, que c'est comme quelque chose qui est enfermé dans de la kryptonite. Et tu vois, et quand tu la sors, bah, ça meurt, en fait. Tu vois, c'est vrai. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est un truc que tu pouvais écouter que à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Il y a ce côté un peu fané. Moi, on avait fait Fatboy Slim il y a quelque temps. Fatboy Slim, j'avais trouvé ça extrêmement lourd, dingue, extrêmement lourd. Chemical Brothers, pardon, je trouve ça beaucoup, beaucoup mieux. C'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus subtil. Et tout ce qui, pour moi, n'était pas trop techno, était quand même assez cool. Par exemple, réécouter Sleep From Day, réécouter Sunshine Underground. J'ai trouvé que c'était des super morceaux. Ça m'a fait bien, bien plaisir de les réécouter. Donc, tout ce qui était un peu plus electronica,
ouais.
Qui était un petit peu plus éloigné de la house, j'ai trouvé ça assez cool. Je trouvais que ça avait plutôt bien vieilli. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, les Chemical Brothers, c'est vraiment cette espèce de période de transition. On change de siècle, on change
d'accord.
de musique,
ouais.
Et voilà, c'est comme s'ils avaient aidé à faire la transition, mais que les ressortir aujourd'hui, il y a quelque chose de complètement anachronique, et c'est difficile d'écouter ça aujourd'hui. Mais voilà, je trouve
que t'admires la performance.
Dans le big beat, ouais. Dans cette période de l'électro, de la deuxième moitié des années 90, je trouve que c'est le meilleur album, clairement. Voilà, par rapport à Fatboy Slim, que je trouve vraiment chiant, que j'ai trouvé chiant. je trouve que les Chemical, quand même cool, ouais. Ouais, ouais.
En fait, je trouve que c'est dur de se dire que en fait, tu pourrais écouter ça dans ta voiture ou dans ta cuisine. J'ai l'impression que c'est un truc que malgré tout, tu écoutes quand même en soirée sous substance.
Je suis pas d'accord, mais oui, c'est de la musique. Il y a des passages dans cet album, ouais, qui sont un peu plus festifs, plus que d'autres, de la techno. Tu peux écouter de la techno dans ta bagnole si tu veux, ou en soirée. Finalement, tu fais ce que tu veux. Mais bon, je reviendrai après sur ce que t'as dit, Greg. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Fanny?
Moi, je pense qu'il y a un truc, en fait, qui est complètement foiré dès le début dans cet album. C'est la tracklist, parce que tu commences avec trois morceaux hyper bourrins, hyper techno. Et moi, quand je démarre cet album que je connais pas, commencer par ça, c'est l'agression d'emblée. Et je me dis, mais la tanasse que ça va être d'écouter ce truc-là, tu vois. Et finalement...
La tanasse,
putain. Et finalement, tu t'accroches, ou alors tu arrêtes au bout du troisième morceau. Et puis plus tard, tu reprends morceau 4. Et là, tu tombes sur Orange Wedge et ça commence à être pas mal. Et finalement, j'ai quand même trouvé mon compte. J'ai effectivement, comme toi, Greg, il y a des morceaux qui s'éloignent, ceux qui s'éloignent le plus de Big Beat et de la techno. Évidemment, A Sleep From Day avec Hobson Doval que j'adore, c'est un super morceau. Et il y a deux trois trucs qui, vers la fin, qui tirent un peu plus vers le trip hop, vers la dream pop, un peu à la Moby. Et ça, ça, je vais pas dire que ça m'a plu de ouf, mais je l'ai bien toléré, on va dire. Mais ouais, globalement, ben, de toute façon, c'est pas nouveau. Hein. Je pense que les auditeurs qui nous suivent sachent que je ne goûte que très peu à ce genre de musique. Donc là, ça n'a pas fait exception à la règle. Mais je trouve ça quand même effectivement intéressant. Et c'est vrai que c'est assez varié. Et par contre, quand tu me dis que sur Out of Control, il y a genre, le mec de New Order et Joy Division, genre c'est censé être ma cam, mais ce morceau est infect, quoi. Donc si c'est pour trasher mes idoles, je dis non, les Chemicals, vous gardez vos morceaux pour vous.
Non, mais il y a quand même une filiation entre le Out of Control, le Blue Monday, enfin c'est des caisses claires qui claquent.
Bah rendez-moi Blue Monday, wesh.
Bah ouais, mais c'est le même mec qui avait déjà fait des gros riffs de guitare un peu dark sur Joy Division et derrière avec New Order, quoi. Enfin bref.
Bon, du coup, toi,
moi,
Manu,
je vous trouve super difficile.
Vas-y.
Voilà, allez, je vais remettre un peu les pendules à l'heure.
Non. T'es tout seul.
Premièrement,
petit 1. Cet album, je pense qu'il y a une méprise parce que c'est pas du big beat. En fait, les gars, ils ont dès le départ en fait cassé le truc. Avant même de sortir cet album, on n'était plus là-dedans en fait. Ils ont voulu créer quelque chose qui était complètement intemporel. Et en fait, c'est ce que tu vois déjà dans tous les samples qui sont utilisés, dans les drums, dans tous ces trucs-là qui sont pas toujours des trucs de dance floor et qui sont pas toujours, même si certes si c'est daté. Je trouve, certaines fois, je trouve que dans sa diversité, en fait, c'est un album qui t'emmène super loin, qui te raconte vraiment une histoire. On parlait de concept album tout à fait au début, c'est vraiment ça. On n'est plus en train de faire un truc pour les dance floor à la manière de ce qu'avait fait Fatboy Slim.
C'est ce que je disais, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe, beaucoup plus varié. Il y a une parenté big beat sur certains morceaux, mais en même temps, il y a d'autres choses.
Fini les big beats, maintenant on va faire du petit beat.
Du petit beat. Du mini beat.
On s'y attendait pas du tout, hein.
Donc, moi je vous trouve super dur. Moi, je trouve que cet album, en fait, de toute la production qu'il y a eu, en fait, de techno, d'électro dans les 90s, il est pas du tout daté, en fait. C'est un truc qui se réécoute vachement aujourd'hui parce que t'as plein d'instruments qui sont des guitares, qui sont des claviers, qui sont plein de choses qui sont réutilisées encore aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un album qui est génial.
Okay,
moi, ça me
chef.
Fait plaisir parce que je le réécoute aujourd'hui avec le même amour que j'avais avant et je le réécouterai encore et toujours. Voilà, bon, c'est un disque que j'aime.
Tu sais quoi, Manu ? C'est l'essentiel. C'est ça qui compte. Moi, je trouve finalement.
C'est pire que tout.
C'est pour te faire plaisir.
Et... Ah, là, je vous déteste. On va devoir rendre l'antenne. Eh ouais. On va devoir rendre l'antenne. Alors,
je crois qu'on est tous virés. Hein, après.
Le prochain épisode, enfin, il y aura Fabienne, Grégoire, un nouveau, et Olivier, Lydia.
Bah, je vais devoir rendre l'antenne. C'est tout pour aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album avec le cassette crew, avec Fanny.
Adieu, hein, du coup. C'était sympa de vous avoir connu.
Grégoire.
Bye bye, à bientôt.
Et Olivia.
Ciao.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, sur Twitter et Facebook et partagez Radio Cassette sur vos réseaux. N'oubliez pas aussi également de nous laisser un message à vous qui nous écoutez pour nous dire ce que vous en avez pensé de cet épisode ou nous chanter une chanson. Ça se passe au 01 89 16 75 31. On va écouter vos derniers messages dans un instant. Allez, on se quitte maintenant avec Hey Boy, Hey Girl. Gros bisous et cœur avec les doigts.
Bye bye.
Bye bye.
Ciao.
Here we go.
Girls, beat boys, superstar DJs, here we go!
Here we go. Salut l'équipe de Radio Cassette. Alors, je viens d'écouter votre épisode sur l'album de Moby et j'ai entendu l'un d'entre vous se demander qui avait bien pu aller voir Moby en concert. Eh bien moi, moi j'y suis allée. C'était en novembre 2002 à Lille, donc ça fait presque tout pile 20 ans. Merci pour le coup de vieux au passage. Et en fait, j'en ai gardé un super souvenir parce que là où on s'attendait à assister à un concert électro, Moby est arrivé sur scène avec de vrais instruments, de vrais musiciens. Il y avait même des violonistes, il y avait une chanteuse gospel. Bref, comparé à la première partie, c'était Roy Xop. Et les gars se sont pointés avec une console et une table de mixage et ils ont tourné des boutons pendant une heure. Le concert de Moby n'avait quasi rien d'électronique finalement. Alors après, vous dire si c'est lui qui a fait les vocales sur le sample de Natural Blues, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est l'une des raisons qui a fait que c'était un super concert. Et la deuxième, c'est qu'en fait, on a eu droit à plus de 2 heures de concert ce soir-là. Et après ces plus de 2 heures de concert, il nous a fait plus d'une heure de rappel. Bref, on a vraiment passé un super moment, vraiment. Et ce concert-là, et en 20 ans, ben, j'en ai fait quand même pas mal. Il est vraiment resté dans mon top. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode, parce qu'en dehors de ce souvenir-là, il m'en a rappelé vraiment beaucoup, beaucoup d'autres très sympas. Merci beaucoup.